Bon, en tout cas, c'est cool parce que ça éclairait quand même sur pas mal des questions en tout cas qu'on se posait, et notamment on se posait un peu ces questions des soignants, des femmes, de comment, je sais pas, les femmes elles sont un peu en première ligne dans cette épidémie coronavirus, et de, je sais pas, moi ça me questionnait pas mal par exemple ce rapport, enfin. Que en tout cas les soignantes sont considérées comme des héros en ce moment. Je me demandais par exemple comment ça pouvait arranger à fond le gouvernement de les faire passer, tu vois, en ce moment pour des héros, alors qu'en fait ça a toujours été des métiers de merde, sous-payés et pas très évidents, quoi. Et notamment là, il y a une, enfin, il y a Macron qui veut verser une prime de 1 500 € aux aides-soignantes. Et je pense que c'est un peu pour faire passer la pilule quand même, parce que là, les conditions de travail, elles sont quand même un peu scandaleuses, je pense. Enfin, on en a déjà un peu parlé, ces problèmes déjà, c'est clair, de matériel, de pas assez de masques, de... Enfin, de pas du tout assez de matériel, en tout cas, pour soigner correctement et être... être dans quelque chose de bienveillant, on va dire, avec, avec les patients. Et voilà, du coup, on s'est un peu posé ces questions et on a un peu trouvé... en tout cas, c'est sûr que c'est clairement les femmes qui sont le plus dans ces métiers-là. Par exemple, en Chine, dans la région la plus touchée, c'est 90% des soignantes, c'est des femmes. Et en France, c'est... plus de 70%, il me semble, et pour les aides-soignantes à infirmières, c'est pareil, ça doit être 90%.
Ouais, c'est ce qu'a dit Cécile là.
Ouais. Donc, ouais. En tout cas, je sais pas, moi j'avais. Cette question sur les soignants, ça m'avait fait penser un peu à un livre que j'avais lu qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle Sorcières, sages-femmes et infirmières. Du coup, c'est un livre qui parle un peu des histoires des soignantes, quoi. Et je me disais que peut-être que je pouvais vous en lire un petit passage court. Alors, en tant que professionnelles des services de santé, les femmes étaient largement confinées dans les rôles subalternes, tels qu'infirmières et aides-soignantes. En tant que patientes, nous nous trouvions soumises à des traitements à la fois intensifs et hasardeux. Hystérectomie inutile, naissance surmédicalisée, contraceptifs insuffisamment testés, stérilisation involontaire. À quoi s'ajoutait la condescendance presque universelle des médecins hommes. Nous n'étions pas censés savoir quoi que ce soit de notre propre corps, ni participer à la prise de décision sur notre propre santé. En tant que filles, les femmes de notre génération avaient grandi en pensant que leurs organes reproducteurs, comme la région innommable d'en bas. Lorsque nous sommes autorisés à participer au processus de soins, nous ne pouvons le faire qu'en tant qu'infirmières. Et les infirmières, quel que soit leur rang, ne sont que du personnel auxiliaire au service des médecins. Depuis, l'aide-soignante, dont les tâches subalternes sont définies avec une précision industrielle, à l'infirmière professionnelle qui traduit les prescriptions du médecin en tâches pour les aides-soignantes, le statut des infirmières est celui de domestique en uniforme au service de professionnels masculins dominants. Notre soumission est renforcée par notre ignorance et nous sommes forcés à rester ignorantes. On apprend aux infirmières à ne pas poser de questions, à ne pas contester. Le docteur sait mieux que vous. Nous avons appris ceci. L'élimination des femmes de métiers de la santé et l'accession au pouvoir des professionnels masculins ne furent pas un processus naturel résultant automatiquement d'évolution de la science médicale. Ils ne furent pas non plus le résultat d'une incapacité des femmes à prendre en charge le travail de soins. Il y eut une prise de contrôle active de la part des professionnels masculins. Et ce ne fut pas la science qui permit aux hommes de l'emporter. Les batailles cruciales eurent lieu bien avant le développement de la technologie scientifique moderne. Leurs enjeux étaient grands. La monopolisation politique et économique de la médecine signifiait que le contrôle de ses organisations institutionnelles, de sa théorie et de sa pratique, de ses bénéfices et de son prestige. Et les enjeux sont encore plus grands aujourd'hui, alors que le contrôle total de la médecine signifie le pouvoir potentiel de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir. La répression des femmes soignantes par l'institution médicale fut une lutte politique, d'abord parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de la guerre des sexes en général. Le statut des femmes soignantes s'est amélioré et a décliné parallèlement au statut des femmes. Lorsque les femmes soignantes étaient attaquées, elles l'étaient en tant que femmes. Lorsqu'elle se défendait au nom de toutes les femmes. Ce fut également une lutte politique qui s'inscrivit dans une lutte de classe. Les femmes soignantes étaient les médecins du peuple et leur médecine faisait partie d'une sous-culture populaire. De tout temps et jusqu'à aujourd'hui, les pratiques médicales des femmes ont prospéré au sein de mouvements de révolte de classe populaire qui ont lutté pour s'affranchir des autorités en place. Sur l'autre bord, les professionnels masculins ont toujours servi la classe dirigeante, à la fois médicalement et politiquement. Leurs intérêts ont été promus par les universités, les fondations philanthropiques et la loi. Ils ne doivent leur victoire pas tant à leur propre effort qu'à l'intervention de la classe dirigeante qu'ils servaient. Voilà, je sais pas, moi cet extrait il me parlait pas mal parce que, enfin je le trouve assez beau et je trouve qu'il retrace un peu du coup l'histoire du soin et des femmes là-dedans et de comment en fait au départ les femmes elles étaient quand même pas mal à soigner dans les campagnes, à aller faire les sages-femmes, les médecins un peu du peuple en fait qui avaient pas les moyens de se déplacer clairement quoi. Et que du coup, c'est quand même un peu un truc, je sais pas, comme qu'on, pour moi, c'est comme un peu un héritage, quoi, ce truc de soin quand t'es une femme. En tout cas, moi, je le ressens un peu comme ça, quoi. Et du coup, je trouve ça assez intéressant, ce texte, et comment aussi, je sais pas, les femmes, une fois que il y a eu quelque chose, on va dire, de société qui s'est mis un peu plus en place, des choses de pouvoir, comment les hommes, ils ont essayé de s'accaparer tout le pouvoir là-dessus et de les laisser un peu au second rang. Et en fait, c'est un peu, je pense, la même chose qui est ressentie aujourd'hui quand tu vas bosser, je sais pas, dans un EHPAD ou dans une maison de retraite, quoi. Comment, quand t'es aide-soignante, en fait, tu te retrouves juste à être sous les ordres d'un médecin qui passe une fois toutes les deux semaines voir ses patients et qui te demande d'essuyer la bouche de quelqu'un et qui te cherche 10 minutes pour lui essuyer la bouche alors qu'il ne le fait pas. Quoi. Enfin, bon, c'est un peu des exemples comme ça. Quoi, mais
on vous conseille en tout cas la lecture de ce livre qui, je rappelle, s'appelle « Sorcières, sages-femmes et infirmières » qui a été écrit par Barbara Ehrenreich et Deirdre English et qui retrace un peu l'histoire des femmes soignantes qui commence à peu près à l'époque de la chasse aux sorcières jusqu'à maintenant.
Et on peut se dire que sûrement... Ah pardon, t'avais pas fini.
Non, vas-y, je rajoutais quelque chose après, mais vas-y.
J'allais juste dire que la meilleure manière de les aider, certainement, quand on n'est pas soi-même soignante, c'est sûrement d'être dans la rue dès qu'on le pourra. À leur côté ou à leur place, il y avait un moment, une journée de grève qui avait été appelée en Italie par le personnel soignant qui disait « je peux pas faire grève, mais fais-la à ma place ». C'était à l'époque, c'était avant le confinement en Italie, et qui appelait voilà, les autres à se mettre en grève, mais pour défendre les infirmières et les infirmiers. Quoi. Et voilà.
Et je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'on a beaucoup entendu parler dans les médias des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, mais on entend peu parler des aides à domicile et en EHPAD et des auxiliaires de vie qui s'occupent entre autres des personnes âgées, isolées, malades et handicapées et qui sont pas réellement considérées comme soignants. Et ça s'est vu d'ailleurs dans certains endroits où des créneaux sont réservés aux soignants dans les supermarchés tôt le matin. Et certaines auxiliaires de vie et aides à domicile se sont fait refouler parce qu'elles ne sont pas considérées comme soignantes, sauf qu'en fait,
elles sont soignantes
et en fait, elles manquent, comme les infirmières et les aides-soignantes, elles manquent d'équipement, de soutien financier, logistique et psychologique.
Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Dois toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbue, jusqu'à ce que je crève sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour croque-nos que ceux qui prennent de l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans cette socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. toujours au turbin, du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendresse, de caresse, je n'ai rien que celle que si bonne me donne mon chien. Recevoir des beignes sans que personne me plaigne, moi j'en ai marre. Voir quand on m'approche que les gens me trouvent moche, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare. Sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre.